la transition écologique.
C'est une question qui est importante. Déjà, je voudrais profiter pour saluer l'Assemblée, l'initiative de l'UP2V, parce que vous êtes une association citoyenne qui vous intéressez donc à la transformation des villes. Et j'ai souhaité, dans la réponse que je vais vous apporter, être accompagné par des membres de mon équipe, puisque le travail doit être évidemment collectif. Et vous l'avez rappelé dans la question, c'est une démarche collective. Et collectif, ça ne veut pas dire simplement travailler avec les élus, c'est travailler avec les habitants. C'est une méthode aussi de travail où rien n'est acquis d'avance et où on ne doit pas avoir de préjugés et aucun sectarisme. Vraiment être dans une transition, à la fois dans une urgence, hein, puisque d'un point de vue écologique, on se rend compte, on a des chiffres, on a des faits scientifiques qui prouvent qu'on est dans une urgence de transformation. On le voit bien quand on voit les photos sur Nancy de l'ancienne place Stanislas qui était traversée par des camions. On peut comparer aussi au boulevard de l'Europe, tout le monde connaît Vendeuvre ici. Et vous savez que Vendeuvre est traversée par 35 000 véhicules par jour parce qu'à la grande époque, alors je fais une petite parenthèse qui me semble être très importante. Un élu n'est pas un spécialiste, un élu n'est pas un technicien. Un élu peut être un docteur, un ingénieur, un professeur, n'importe quel profil. Mais le plus dangereux pour un élu, c'est de se prendre pour ce qu'il n'est pas. Il faut être accompagné par des techniciens, par des services, par une administration. Et c'est, ce qui est important, c'est de faire émerger des idées, c'est de faire participer les habitants, et c'est surtout de vouloir respecter des valeurs et des orientations. L'orientation première, qui est un postulat contre lequel on ne peut pas revenir en arrière, c'est bien effectivement de viser la transformation, de rester dans quelque chose qui soit respectueux de la planète, des normes environnementales. On est sur des bases qu'on doit accepter de ce point de vue-là. Et après, une fois qu'on a défini ces objectifs qui sont des objectifs immuables, on doit prévoir comment les rendre opérationnels à travers des actions. Et maintenant, de manière très concrète, Vendeuvre, ville dortoir des années 70, avec un lieu où les gens étaient là pour vivre dans une cité dortoir et non pas vivre mais habiter, doit se transformer parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des phénomènes qui tournaient autour de ces cités dortoirs qui n'étaient pas très bons. On est passé à autre chose et on prend l'exemple de ce boulevard de l'Europe qui est insupportable au sens où on voit bien toute cette pollution, on voit bien toute cette difficulté, ces embouteillages, et c'était vraiment fait à cette époque pour que les flux de circulation qui venaient de Nancy puissent être évacués par les villes périphériques. Donc les villes périphériques étaient vraiment là pour absorber toutes les difficultés dans tous les sens du terme, alors qu'au contraire, il est important de pouvoir végétaliser, il est important de pouvoir travailler donc avec des services compétents, puisqu'à la métropole, on a l'équivalent de la Solorem à laquelle on a adhéré au niveau de la ville de Vendeuvre. On a une étude qui est prévue jusqu'en 2028. À partir de 2028 jusqu'à 2030, 2032, des projets qui doivent être mis en œuvre. Mais les projets, ça c'est important. Autant on doit être ferme et on doit vraiment les mettre en œuvre et agir, autant on ne peut pas se permettre d'erreurs. On peut toujours corriger les choses, mais il faut savoir ce qu'on veut. Et là-dessus, il ne faut pas avoir une vision radicale, mais il faut avoir une vision raisonnable et sage et qui vise à la transformation. Qu'est-ce qu'on veut pour la ville avec les habitants? Et quand vous regardez le boulevard de l'Europe, évidemment, vous avez ce qui devait être le tram, qui est devenu le trolley, qui va arriver au centre-ville. Mais le centre-ville de Vendeuvre, c'était un centre commercial. Et le centre commercial étant en faillite, il n'y a plus de centre-ville. 30 000 habitants, deuxième ville du département, plus de centre-ville. Ce n'est pas normal. Donc nous, on a travaillé avec un urbaniste et on lui a dit, on est attaché aux normes environnementales, à la sauvegarde de la planète, comment on peut faire pour viser cette transformation. On a donc la Maison de la Santé qui sera reliée au CHRU, qui est le cinquième hôpital de France. Le Technopôle avec toutes les infrastructures magnifiques sur Vendeuvre était toujours à l'écart de la ville. La ville, elle doit être irriguée par ces structures. Et on doit le faire justement dans ce que vous dites dans votre question par rapport à ce qu'on appelle l'écologie urbaine. Alors là, j'emploie des mots, je les maîtrise peut-être pas autant que les scientifiques ou les spécialistes, mais les politiques sont là pour décider. Et quand on est politique, on doit viser justement à des objectifs. La ville est en train de vivre un énorme virage, la ville de Vendeuvre. Elle doit reprendre la place qu'elle devait avoir. Ces infrastructures qui sont incroyables doivent pouvoir irriguer toute la ville. On a un centre militaire, on a France 3, on a une foire internationale. Ce sont des choses qui font briller Nancy, alors que c'est sur Vendeuvre. Le but, ce n'est pas d'opposer les villes, c'est de travailler la notion de territoire au sens large du terme. Et pour que ces services puissent fonctionner, ces infrastructures et irriguer la ville, il faut voir le mode de déplacement. Et donc ce boulevard de l'Europe, on ne va pas l'effacer d'un trait, mais il faut qu'on puisse se déplacer de façon douce et respectueuse avec... Vous vous rendez compte, il n'y a même pas de trottoir pour que les gens aillent du Vélodrome, qui est quand même un axe stratégique important, au centre-ville. Il n'y a pas de trottoir. Donc il n'y a pas de déplacement possible pour les vélos. Il n'y a pas de... Donc on peut toujours considérer que le stationnement est important pour les gens, mais il faut le faire peut-être de manière souterraine, c'est possible, pour laisser quand même un mode de déplacement piétonnier. Je veux dire, c'est là où tout doucement on se rendra compte que la ville de Vendeuvre ne sera pas simplement une ville de transition, mais une ville où on peut s'arrêter. Et la notion de place publique, elle prendra tout son sens, puisque on le voit avec la médiathèque, un lieu culturel, avec la maison de la santé, un lieu de santé. La santé étant reliée au CHRU, c'est une ville qui a une composante fondamentale, la santé. On le voit avec la faculté des sciences, c'est à nous d'inventer, avec les infrastructures, de quoi irriguer, faire une maison ou accueillir des entreprises dans le domaine de l'innovation et la science en relation avec la fac de sciences. Ça veut dire profiter des moyens de l'État et profiter de cet investissement qui a été mis en œuvre pendant longtemps, mais pour la ville. Et d'ailleurs, c'était initié par de nombreuses personnalités à l'époque, puisque quelqu'un qui est décédé maintenant et qui a présidé la MJC Nomade était universitaire à la fac de sciences et avait déjà inventé ce concept-là. On le doit à ces personnes-là, qui on doit rendre hommage, qui étaient des pionniers dans ce domaine. Donc voilà, ce qui est important, c'est le timing, le phasage, le qu'est-ce qu'on veut, et surtout végétaliser, mettre des arbres au maximum. Les gens nous disent, les enfants, les familles, on veut respirer. C'est fini cette ère du béton et du tout béton, c'est terminé. Donc faire le maximum pour engager cette transformation, et c'est déjà bien parti, parce que j'ai l'honneur d'avoir été aussi pendant 3 mandats le maire et mon équipe, et à ma gauche Dany notamment, qui a fait planter 30 000 arbres pour une forêt urbaine en plein cœur. Là on n'est pas dans la doctrine, on n'est pas dans l'abstraction, on est dans la réalité. Les enfants des écoles y ont participé. Il n'y a rien de tel que la participation pour viser à l'appropriation collective des projets.
On enchaîne avec la deuxième question, si vous permettez. Alors, ça concerne toujours l'écologie, mais plutôt les questions de mobilité. Que voulez-vous améliorer et favoriser pour permettre à tous de se déplacer autant que nécessaire et dans de bonnes conditions? Quelle place donner aux mobilités douces?
Alors, je vais laisser la parole, puisqu'on travaille en équipe, à Manu Donati, qui a longtemps été à mes côtés, aux côtés de qui je resterai également, puisqu'on fonctionne en tandem. Dany Ackermann, qui est aussi concerné, pourront répondre. Manu, tu peux répondre à cette question, s'il te plaît, merci.
Oui, très clairement, Vendeuvre dans les années 70 est une ville qui a été construite pour l'automobile. Donc il faut corriger ce tir, puisque aujourd'hui, l'évolution des façons de vivre et les problèmes écologiques font que c'est plus possible de continuer à avoir l'essentiel des personnes se transportant en voiture, avec une seule personne dans chaque voiture. On arrive à des encombrements, etc., etc. Néanmoins, cette transition ne peut se faire que s'il y a une volonté politique et une volonté des habitants de faire cette évolution. Et puis, il ne faut absolument pas opposer voiture, mobilité douce, piéton, etc. Monsieur le député a répondu très clairement par rapport au boulevard de l'Europe, qui est typiquement représentatif de ça, 35 000 voitures, etc. Bon. Très clairement, on a la chance que, grâce aux travaux faits par la métropole, nous avons maintenant une ligne à haut cadencement, qui est la ligne 5, qui traverse le boulevard de l'Europe. Il va falloir faire en sorte qu'il y ait un site propre. Il va falloir redonner la place aux piétons. Et je vais donner la parole à Dany. Et surtout, je préférerais faire un environnement tel que les gens aient envie d'y vivre, envie de s'y arrêter, envie de se promener, etc., etc. Donc, la priorité pour nous à Vendeuvre, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de transports en commun, que le boulevard de l'Europe soit transformé en site propre. Mais il faut trouver une solution pour les voitures, parce que le long du boulevard de l'Europe, c'est typique. Hein, aujourd'hui, lorsqu'on fait un immeuble, y compris si c'est un bailleur, on fait des parkings souterrains. Hier, les voitures étaient sur l'espace public. Hein, et si vous regardez le boulevard de l'Europe, qui est aussi large que les Champs-Élysées, ben, au moins sur les Champs-Élysées, il y a encore des magasins et des larges trottoirs. Là, nous n'avons même pas de trottoir. On a inventé une zone 20 pour essayer de trouver une solution, mais ce n'est pas forcément la bonne. Donc, en conséquence, il va falloir trouver une solution pour qu'il y ait un site propre. Sur le site propre, moi, je pense qu'on peut y mettre les vélos, parce que la ligne 1, et moi, je l'utilise tous les jours, montre que c'est tout à fait possible. Il va falloir faire ce qui a été fait à Nancy, à savoir faire en sorte que les vélos, eh bien, sur leur place, soit sur des lignes de bus, soit lorsqu'il y a une circulation intense, hein, lorsque vous êtes dans une zone 20, dans un quartier tranquille, il n'y a pas besoin de mettre un aménagement cycliste spécial. Mais il va falloir développer, faire en sorte que, on sait plus en sécurité. Plus important, il faut surtout réapprendre aux enfants à faire du vélo, comme le faisaient nos grands-mères, hein, etc. On le fait actuellement dans les écoles. Il y a un nouvel engin qui est très important qui s'appelle les trottinettes. Ce n'est pas une trottinette qui est dangereuse. C'est le fait qu'aujourd'hui, on monte sur une trottinette et on y va sans apprentissage. Or, rouler une trottinette nécessite un apprentissage. Les roues sont petites. Le moindre trou dans la route, et il y en a beaucoup, ça devient casse-gueule. Et les enfants, les adolescents et les plus âgés, si vous préférez, ben, ils se retrouvent aux urgences avec des fractures extrêmement graves, etc., etc. Donc, apprentissage à la mobilité douce, faire en sorte que les transports en commun soient favorisés, faire en sorte que, si je prends le boulevard de l'Europe, il va y avoir une opération de rénovation urbaine, ça veut dire un certain nombre d'immeubles vont être démolis, si vous préférez, vous voyez certains immeubles anciens, où la seule façon d'aller chez soi, c'est un escalier en colimaçon, ce qui fait que la personne qui se retrouve malheureusement handicapée peut même plus sortir de chez elle, etc. Donc un certain immeuble vont être démolis. Or, si vous regardez rue Belgique, hein, vous avez un ensemble de... la voiture à nouveau omniprésente, un ensemble de parkings qui devraient être enterrés, il devrait y avoir des jeux d'enfants, il devrait y avoir des espaces végétalisés aussi, etc. Donc, mais pour ça, il faut ouvrir des rues latérales, de façon à ce qu'on n'ait pas besoin de faire un kilomètre à pied pour aller garer sa voiture, etc. Il va falloir dégager un petit peu le boulevard d'Europe, donc il faut offrir la possibilité de garer sa voiture en proximité ailleurs. Donc il y a tout un travail à faire de ce côté-là qui me semble important. Alors, mais je dis bien, si on ne fait pas la végétalisation, c'est-à-dire si on ne donne pas envie aux gens de s'asseoir sur un banc et puis de regarder le spectacle, on n'aura pas gagné. Alors en termes de biodiversité, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Alors je vais continuer.
Allez-y. Hein.
Oui, parce qu'en fait, je vais revenir moi sur la végétalisation, parce que c'était le premier sujet, mais qui est très important, parce que nous sommes quand même dans le cadre de la transition écologique. Et que la démarche que la ville a entreprise depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans maintenant, c'est d'œuvrer pour végétaliser la ville, mais en dépassant la notion de simple verdissement. C'était le mot qui était employé dans votre questionnaire. En effet, donc dans le contexte du changement climatique et non pas de dérèglement, souvent on entend parler de dérèglement, non, c'est un changement. Dérèglement, c'est quand on peut revenir à la normale. Là, ça n'est plus possible. Donc on est dans le stade d'un changement climatique, et bien la végétalisation de nos villes est finalement une des solutions, ce qu'on appelle fondée sur la nature. Parce que végétaliser une ville réduit les effets du changement climatique. On peut s'y adapter justement de façon plus facile, parce que les végétaux apportent, comme vous le savez, ombrage, fraîcheur. Les arbres jouent un rôle de climatiseur naturel et contribuent bien sûr aussi à l'amélioration de la qualité de l'air. C'est pour ça que M. le député en a parlé. Lorsque nous avons planté la forêt de 30 000 arbres, c'était pour pouvoir arriver à purifier l'air de Vendeuvre dans le bas, donc dans ce qui se trouve être le bas de la ville, et puis également de pouvoir créer une trame écologique entre le parc Pouille, le parc du Charmois, et contribuer à cette qualité de vie que tout le monde recherche, puisque c'est important de pouvoir être dans un cadre de vie harmonieux, apaisant, et donc Nous sommes vraiment dans ce cadre-là. Alors maintenant, moi, je vais vous simplement faire le rappel de la politique environnementale de la ville, parce qu'elle a été reconnue pionnière pour, et même donnée en exemple, pour des actions qu'elle a menées. Alors, je viens de citer la forêt urbaine des 30 000 arbres, et vous dire que le prochain mandat, c'est la poursuite et même l'accélération de ce que nous avons entrepris. Et donc, nous avons été reconnus comme exemple par l'Office français de la biodiversité pour des actions mises en place sur le bois de la Champelle, sur la gestion écologique des coteaux, également sur la forêt urbaine, c'est ce que j'ai dit. Et je crois que cette politique, il faut qu'elle continue à s'affirmer. Et donc, en tant que ville labellisée territoire engagé pour la transition écologique, dont on parlera aussi tout à l'heure, Philippe, eh bien, nous allons continuer à prendre vraiment en compte à tous les niveaux les enjeux environnementaux et écologiques pour les insérer dans notre politique. Alors maintenant, je vais simplement vous lister ce que nous avons prévu de faire. Certains des projets sont déjà engagés.
De temps de parole, hein. Au total, tu as un quart d'heure.
Alors, je vais...
Vas-y, résume, Daniel.
Trois questions.
Alors, donc, il y a bien sûr l'ouverture du parc arboré des Clarisses. On a créé de nouveaux espaces de nature dans la ville, dont un parc infiltré traversant Vendée. Nous allons bien sûr veiller à la préservation des arbres existants, mais aussi favoriser la plantation d'espèces qui pourront s'adapter au changement climatique. Nous allons entreprendre de nouvelles actions de désimperméabilisation des espaces urbains et des cours d'école. Et en fait, encourager aussi la végétalisation des trottoirs, des façades pour rafraîchir et permettre à chaque habitant, ça c'est important, de trouver à proximité de son lieu de vie un espace vert ou de nature qui lui permettra d'être dans ce cadre de vie respectueux de l'environnement, sûr, sain, attractif pour aujourd'hui et pour demain. Donc je vais peut-être passer la parole.
On vous pose la troisième question si vous voulez, parce qu'on va passer maintenant à la transition sociale. Et alors la question est... qu'on vous pose, c'est sur quoi mettez-vous la priorité pour favoriser le mieux vivre ensemble de tous pour tous.
Donc c'est ce qui est important dans la question que vous posez, enfin, je vais être complété par Philippe Attin-Quadio, qui est l'adjoint à l'urbanisme, c'est que il y a une transition entre les questions d'avant et celle-là. On peut vivre bien quand on vit dans un cadre propice. Beaucoup de gens nous disent, on les écoute, on serait mieux avec des parcs, avec quelque chose de plus agréable. Vous savez, quand il y avait la période de la Covid, des jeunes sortaient au bout de 6 mois, ils étaient coincés dans leur appartement, et il y a eu des histoires avec des mortiers, où il y a eu beaucoup de violences urbaines. Alors le but, c'est pas de dire ils ont tort, ils ont raison, c'est de voir le phénomène qui se produit. Et s'il se produit, c'est qu'on a concentré aussi beaucoup de population dans ces tours. C'est pas normal, il faut aussi pouvoir créer un cadre différent. Et vous savez, pour ceux qui aiment Vendeuve, qui connaissent Vendeuve, tout à l'heure, c'était quelqu'un de la famille de M. Richard Pouille, une jeune qui me dit, c'était quelqu'un de ma famille. M. Pouille a créé le parc qui porte son nom, le parc Richard Pouille. C'est un parc dans une ville. Nous, on souhaite faire une ville dans un parc. C'est-à-dire que le parc doit ressortir partout. Le long du boulevard de l'Europe jusqu'au Vélodrome, arborer le Vélodrome, doit ressortir. Quand vous allez à Vendeuvre-Est, pourquoi avoir démoli le centre Jeanne d'Arc? C'était une verrue. Et pourquoi avoir démoli quelques bâtiments? Parce que vous avez un axe qui permet de traverser avec le vélo, avec les piétons. Et là, on se sent bien, on se sent mieux. Donc effectivement, une ville où on accompagne les populations, c'est une ville où il y a des services à la population, des services de santé, des services de formation, des services alimentaires, des services... Alors après... Je voudrais en profiter et je terminerai mon propos en laissant Philippe me compléter. Faire attention aussi à l'utopie. On a besoin de rêver, effectivement, mais on doit être réaliste. C'est-à-dire que dans une ville, enfin, c'est un avis qui a été partagé longtemps par les équipes et la population, on ne peut pas survivre si on n'a pas justement cette perspective d'avenir. La perspective d'avenir, c'est où est l'emploi? La perspective d'avenir, c'est comment se former? La perspective d'avenir, c'est comment s'épanouir par le sport? C'est comment la culture peut-elle aussi apporter des moyens d'épanouissement? Donc une ville qui n'a pas ses moyens, même si elle a ses limites, tout n'est pas la compétence de la ville. mais la ville fait comme elle peut, et elle a des responsabilités à partager avec d'autres institutions, y compris avec le privé. J'en profite parce qu'il y a des listes qui seront tout à l'heure interviewées, et c'est ça le débat démocratique, qui considère que le privé, ça peut être un gros mot, mais le privé, c'est quelque chose de bien à partir du moment où on cadre les choses. Je veux dire, s'il n'y avait pas le privé, on ne pourrait pas faire la maison de la santé. S'il n'y avait pas le privé, on ne pourrait pas refaire peut-être les nations. Ce n'est pas à la ville de Vendôme d'acheter un centre commercial. Ce n'est pas sa compétence. Par contre, laisser venir n'importe quel privé, c'est très grave. Mais si on passe un contrat et qu'on a un objectif avec un cahier des charges pour dire là, on souhaite qu'il y ait non pas n'importe quelle restauration, mais une restauration solidaire ou associative, ou un endroit où les étudiants qui n'ont pas les moyens peuvent se retrouver, font pas bande à part, qu'on met pas à l'écart. La ville, c'est ça, c'est comment irriguer le territoire et faire en sorte que les populations se rencontrent. On a des étudiants, c'est une richesse. On a des anciens, s'il y a des maisons intergénérationnelles, c'est une richesse. Voilà, donc il reste plus trop longtemps. Je suis bavard.
Il reste 10 minutes.
Alors, je vais laisser la parole, peut-être sur une autre question, à Philippe Attempadio, qui est à mes côtés, voilà.
La question suivante qu'on voulait vous poser, après le vivre ensemble, c'était comptez-vous faire sur les sujets d'animation de la vie locale, de son centre, et qu'est-ce que vous allez faire pour renforcer l'attractivité de la ville ?
Skander, tu veux venir ? Alors, allez.
Oui, simplement pour compléter très rapidement les perspectives de l'intergénérationnel, de l'interculturel, le vivre ensemble, c'est son habitat, son logement et son cadre de vie. Donc déjà, on est en programme de rénovation urbaine sur Vendest. 500 logements vont être démolis pour en reconstruire 200 autres de nouveau type avec des petits bâtiments qui vivent mieux, où on se fréquente et on se voit, on vit ensemble. L'habitat va aussi être déployé sur des petites unités sur le différents quartiers de la ville. C'est ce qu'on appelle dédensifier. Le cadre de vie, on vous a parlé d'une extension du parc Pouille qui va aller jusqu'à la rue Jeanne d'Arc. Et en plus de la rénovation de 1500 logements sociaux qui seront faits en isolation contre les déperditions l'hiver, on travaille sur non pas des îlots, mais vraiment une ville verte et fraîche. Donc des espaces verts jointifs pour se déplacer. Autre chose importante, c'est la concertation. En matière de concertation, on peut avoir des réunions publiques, on peut aller à la rencontre des habitants, mais il est important d'être là où ils sont disponibles. Et on a développé depuis 3 ans des dispositifs qui vont être pérennisés. On rencontre les habitants par un dispositif qui s'appelle Triporteur. Vous risquez de nous voir, vous rencontrer dans la rue, là où vous êtes disponible pour échanger avec vous sur les aménagements. On rencontre aussi les habitants en pied d'immeuble. On fait des moments conviviaux, ce qui permet avec les habitants de toutes les générations d'échanger sur les difficultés, les fragilités et de trouver ensemble des solutions au vivre ensemble.
Et pour compléter, c'est très important, le but c'est pas de démolir et de dire aux gens vous partez, vous n'existez plus, on vous efface de la carte, c'est pas ça. On a créé aussi un îlot. Un îlot, c'est, Philippe, histoire locale, c'est créer la mémoire du quartier, c'est faire participer les gens sur les souvenirs et sur l'avenir, c'est voir comment faire contribuer les habitants. Et c'est ça aussi l'animation. L'animation, c'est la fête des associations que nous avons créées. Ce n'est pas la ville qui va animer, c'est les habitants eux-mêmes. Et c'est très important qu'ils puissent participer. On a 400 associations à Vendôme. Cette fête des associations, elle est très populaire, elle est très fréquentée. Ce sont les gens eux-mêmes qui la prennent en main, avec toute cette diversité que représente Vendôme dans la vie sportive, culturelle, des loisirs, de l'éducation, dans tous les domaines. On a des associations qui travaillent ensemble.
Un autre sujet qui pose souvent question, c'est les seniors. Depuis 3 ans, nous sommes allés à la rencontre de 850 seniors et nous allons poursuivre cette démarche d'aller vers, rencontrer les seniors pour définir avec eux quels sont leurs besoins en équipement, en aménagement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la production de ce qu'on appelle des résidences intergénérationnelles, entre une partie étudiante, une partie senior, des lieux de vie communs. Ça fonctionne très bien. Des résidences-services de nouveau type adaptées aux besoins des seniors, co-animées par la ville. Donc c'est quelque chose qui est important. On manque d'habitat senior collectif. Ça fait partie des projets déjà en cours.
notre dernière question, mais il vous reste peut-être encore 7 minutes. Elle concerne la démocratie participative. Comment comptez-vous la développer, la favoriser ?
Alors, Manu Donati est très très attaché à la démocratie participative, mais j'introduis et il prendra la suite, il reste 7 minutes. Très important, on a des conseils de quartier, la ville est découpée en conseils de quartier, mais on n'est pas des sectaires et des doctrinaires, on regarde les besoins des habitants. Dans un immeuble, vous avez des personnes qui vivent, je prends un exemple, bâtiment Plaisance, c'est des anciens retraités du BTP, ils vivent dans une entité, ils ont des problèmes d'animation, de vie commune ensemble. Bon, on a fait un conseil de quartier rien que pour leur immeuble. Ça ne servait à rien de l'étendre à d'autres endroits. Après que le quartier puisse aussi participer sur la vie du quartier, c'est autre chose. Et la participation, elle ne se fait pas qu'une fois dans l'année ou elle ne se fait pas qu'une fois tous les 6 ans en élection municipale. Elle se fait tout le temps. Et quand on décide de donner la parole aux gens, par exemple, en disant « Vous aurez un budget, dans votre quartier, vous décidez, parce que vous êtes des nounous, de choisir les jeux pour les enfants. » Qu'elle le fasse elle-même, c'est plus fort que de le faire à leur place. C'est beaucoup plus important. Donc voilà, il faut faire confiance aux habitants et la participation, elle doit être permanente. Et elle doit être une confiance réciproque avec les habitants, qui doivent co-gérer aussi les choses publiques.
Oui, en matière de démocratie participative, on a essayé pratiquement tout. Ça a été la création du comité local de développement durable, un petit peu de l'UP2V aussi au départ, les conseils de quartier qui viennent être écrits. On a fait des votations à la Suisse, dans certains cas très très précis. On a essayé d'aller sur le terrain, de faire des réunions sur le terrain, des apéros, honnêtement c'est ce qui marche le mieux, c'est sérieux. Hein. On a essayé d'aller vers. Philippe, dernièrement par rapport aux seniors, a fait un sondage extrêmement large. Hein. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne méthode de démocratie participative. Il y a un ensemble d'outils, et selon ce que l'on souhaite faire, etc., il faut le tester. Après, il faut aussi définir c'est quoi la participation. Parfois, moi, j'ai des habitants qui me disent « Mais monsieur le maire, c'est nul votre participation. Moi, je vous ai demandé de couper tous les arbres et de mettre à la place un parking. Vous avez créé le parking, mais vous n'avez pas coupé les arbres. » Ben oui, parce que notre engagement vis-à-vis des habitants, lorsqu'on a été élu en 2020, c'était justement de végétaliser la ville, et notamment préserver les arbres anciens, pas commencer à les couper. Bon, par contre, nous avons bien entendu les habitants qui nous ont dit « On a un problème, on ne sait pas garer où les voitures, etc. Trouvez-nous une solution, pourquoi vous n'en faites pas là, etc. » Les jeux d'enfants, on en a marre, ça fait du bruit, les enfants, c'est bruyant. Par contre, un terrain de boule, ouais, vous pouvez le rénover, c'est pas mal, etc. etc. Donc, il faut venir avec ces idées, c'est-à-dire garder le cap par rapport à l'ensemble de la ville. Ce n'est pas pour le plaisir qu'on a planté 30 000 arbres, c'était vraiment une volonté. Hein. Mais par contre, une fois qu'on est dans le cadre de ce qui était engagé au moment de l'élection, pour ce qu'elle nous avons été élus, il faut savoir avoir la souplesse et écouter les gens et les entendre, même si ça ne nous plaît pas. Même si ça ne nous plaît pas. C'est ça la démocratie participative. Et là, c'est là la difficulté, etc.
Je me permets de rajouter une petite phrase importante. Quand vous arrivez dans un quartier, par exemple, ça nous est arrivé avec Manu, de nous engueuler, mais de ne pas être d'accord. Parce que quand quelqu'un nous dit « mais je vous ai dit ça, mais oui, mais vous n'êtes pas venu au conseil de quartier », toute cette démocratie dont on parle ne se limite pas, ne se réduit pas au conseil de quartier, même si le conseil de quartier touche beaucoup de monde. Il faut écouter tout le monde. Et si quelqu'un ne veut pas le conseil de quartier, il a le droit d'avoir la parole quand même. Donc, à partir du moment où le besoin correspond à un intérêt général, on doit l'écouter. Voilà. Parce que l'intérêt individuel, voilà, faut en tenir compte, mais c'est pas le but d'une mairie. Le but de la mairie, c'est comment répondre à l'intérêt général, comment avoir une vision globale pour la ville, comment respecter certaines normes. Évidemment, si quelqu'un nous dit « le voisin là, il me plaît pas parce que il n'a pas les mêmes origines que moi, et puis on va le jeter, on ne le veut plus dans le quartier. » On peut entendre des choses, mais à un moment donné, il y a un minimum de principes républicains auxquels on ne doit pas déroger. Voilà. Question suivante ? Non, c'est fini, il n'y a plus de questions.
La métropole a été définie il y a pas mal d'années, et elle couvre 75% de nos délégations. C'est-à-dire quand il y a 100 euros qui sont dépensés sur la ville, il y en a 75 qui viennent de la métropole. Et ça, je pense qu'on l'oublie tout le temps. Donc il y a des choses à revoir au niveau de la métropole. Il faut revoir la gouvernance, très clairement. Elle est on est arrivé à un stade où c'est, la métropole décide à la place des villes. Ça, c'est pas normal. Nous avons des territoires. Je prends par exemple le Brabois. Très clairement, Brabois est un territoire en jeu. Très clairement, cela relève, lorsqu'on construit un hôpital, cela relève de la métropole. Mais très clairement, il y a des habitants. Et très clairement, c'est invivable pour les habitants. Même si les habitants, on est tous premiers, et à mon âge, je ne dirais pas le contraire, nous avons besoin d'hôpital. Nous sommes très fiers qu'un hôpital neuf se construise sur l'agglomération et en plus sur la ville. Mais il faut savoir dire à la métropole, stop, attention, lorsqu'il y a un territoire qui est sur... lorsqu'il y a un territoire en jeu qui est sur une ville, eh bien, il faut qu'il y ait une co-gouvernance, à savoir un élu de la ville et un élu de la métropole, chacun défendant les intérêts mutuels. Il faut savoir aussi arrêter la métropole en disant qu'il y a de la proximité. La métropole n'a pas vocation à tout faire. Lorsqu'on est en hyper-proximité, lorsqu'il s'agit de tondre la pelouse en dessous des immeubles, c'est ridicule que ce soit la métropole qui le fasse. Il va falloir revoir le périmètre de la métropole. C'est fini.
Merci.